Bonjour à tous, vous êtes bien sûr à l'YFM 93.1 et vous écoutez Vive le cinéma Perspective, une émission animée par Pierre Charpioz. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un cinéaste rare. Il nous avait laissé déjà une passionnante trilogie documentaire sur la nature, l'homme et l'écologie, avec Le Temps des Grâces, La Ligne de partage des eaux et Nul homme n'est une île. 5 ans se sont passés depuis ce dernier film et le voilà de retour avec un tout aussi passionnant documentaire, La Rivière, actuellement en salle. Bonjour Dominique Marchais.
Bonjour.
Alors, La Rivière, c'est un peu la suite de ce cycle documentaire ou c'est un nouveau départ, quelque chose d'autre ?
Non, c'est dans la continuité avec des inflexions, des différences. J'essaie de ne pas faire deux fois le même film. C'est rétrospectivement que je comprends mieux les évolutions qui se jouent entre chaque film. Je pense que par rapport à mes films précédents, c'est un film qui va plus loin dans la forme portrait. Alors que, par exemple, Le Temps des Grâces, c'était quand même un film assez choral, avec beaucoup de protagonistes et une parole publique, une parole politique quasi exclusivement. Alors que avec Nul homme n'est une île, surtout sur la partie sicilienne avec les Galline Felici, il y a déjà la dimension de l'intime qui commence à affleurer et qui, je pense, prend un peu plus encore de consistance dans La Rivière. L'évocation de l'enfance chez certains personnages, elle est très récurrente, etc. Donc on sent une colère, une émotion, une tristesse, et voilà, mais qui n'est pas la tonalité non plus dominante du film, hein. Ça, on y reviendra. Le film, je crois, et montre aussi des gens très énergiques, enfin qui sont à la fois dans la déploration et dans l'énergie et dans l'émerveillement. Il y a les deux dynamiques. Mais voilà, il y a je sais pas combien ils sont, mais il y a beaucoup moins de personnages et donc on passe plus de temps avec eux, et ça, je crois que ça change notablement par rapport à mes films précédents. Et puis il y a d'autres inflexions. Par exemple, le périmètre du film, il est beaucoup plus circonscrit, hein. Le Temps des Grâces, c'était toute la France. Nul homme n'est une île, c'était sur 3 pays. Là, on est sur un territoire assez petit, les Pyrénées-Atlantiques. Alors, en fait, moi, c'est pas les Pyrénées-Atlantiques le territoire du film, c'est plutôt un bassin versant. C'est le réseau géographique des Gaves et de la Dour jusqu'à de la confluence des Gaves jusqu'à l'océan. Et puis, c'est aussi un film qui se distingue, je dirais, des précédents, parce que d'une certaine manière, je pense que c'est un film où j'assume plus. Le film fait moins forum, quoi. Je donne pas la parole à tous les acteurs de La Rivière. C'est qu'avant, je croyais plus à la aux vertus du débat, et que là, j'ai surtout. Alors, ce n'est pas que je ne crois plus dans l'importance et les vertus du débat, mais j'avais surtout besoin de tourner l'attention sur un, j'ai envie de dire, sur nous-mêmes. Alors, qui est ce nous? C'est une différence. C'est-à-dire que je m'inclus dans ce nous que je filme. Alors qu'avant, je restais sur le seuil, et là, je m'engage davantage avec eux. Et d'ailleurs, le film, il se fait à la deuxième personne du singulier. C'est un tutoiement de rigueur et qui s'est imposé, en fait. Je ne connaissais pas les personnages, même des scientifiques. En fait, au bout de 5 minutes, on se tutoyait. Pourquoi ? Alors que dans Le Temps des Grâces, c'était l'inverse. Des personnes que je tutoyais hors tournage, je les voyais à l'écran. J'avais besoin de créer cette distance, d'être un peu plus cérémonieux. Non, là, j'assume parfaitement la proximité, j'ai envie de dire la camaraderie. Donc, c'est quoi ce nous ? C'est des gens qui se rencontre sur un amour, un attachement à la nature et aussi sur une douleur et une colère par rapport à la perte auquel on assiste, qu'on vit.
Voilà. Oui, parce qu'il faut dire effectivement que ça s'intéresse à la rivière, et plus particulièrement à plusieurs rivières, les Gaves, ces rivières puissantes, et à leur milieu marin, leur vie et leur écosystème qui est en danger, en mutation, en lien beaucoup avec l'agriculture, les transformations.
Bon, en fait, ces rivières, les rivières que j'ai filmées, elles parlent pour toutes les rivières. Et les rivières parlent pour les milieux en général et pour la planète, en fait. Hein. C'est vraiment la partie pour le tout. C'est pour ça que j'ai choisi d'appeler le film très simplement La Rivière. C'est une rivière générique. Mais c'est une rivière générique qui est une rivière... Alors voilà, qui en fait, j'allais dire, est une rivière particulière. Sauf que j'en filme plusieurs, mais... Je crois que c'est comme ça qu'il faut regarder les rivières maintenant. D'une certaine manière, je filme des populations de rivières. Il y a des familles de rivières, les Gaves, c'est une famille de rivières. De la même manière que le film, à un moment, parle de ce qu'on appelle le maïs, enfin les céréales, les populations. Un maïs population, c'est les vieilles variétés, avec une grande variété génétique finalement à l'intérieur de cette variété qui fait qu'il y a à la fois suffisamment de traits communs pour qu'on puisse parler d'une variété et en même temps une grande diversité. Bon, c'est un peu le même rapport que j'essaie de construire avec les rivières. C'est marrant d'ailleurs parce que les Gaves, donc le Gave, c'est un mot commun, ça veut dire rivière en fait, hein. C'est un très vieux mot, c'est pré-latin, c'est un mot qui est rentré dans la langue latine, mais qui est un, alors je sais pas, du pré-gascon. Enfin. Les Gaves, ça veut dire rivière, dans le Pays Basque c'est les Nives, et puis... En Haute-Garonne, ça s'appelle encore autrement. Enfin, donc, mais ce qui est marrant, c'est que le Gave change de nom en fonction des lieux qu'il traverse. Le Gave d'Ossau retrouve le Gave d'Aspe, ils deviennent le Gave d'Oloron. Donc, en fait, c'est une espèce là de toponymie. Il y a une toponymie qui diffère des usages, puisque en toute logique, par rapport à nos usages, il y aurait dû y avoir un cours d'eau qu'on aurait appelé le Gave d'Oloron d'un bout jusqu'à l'autre.
Oui, mais c'est que les usages ne sont pas forcément les mêmes, et c'est aussi ce que raconte votre film, c'est que exactement. Les rivières existent par rapport aux êtres humains, et il y a une interconnexion qui est très forte entre le milieu naturel et le milieu humain. C'est-à-dire, c'est pas un film sur la nature qui filmerait la nature qui existerait comme ça, de manière tout à fait séparée de l'homme. C'est l'important, c'est comment est-ce que l'homme vit avec sa nature, et cette nature vit avec l'homme.
Oui, oui. Mais c'est aussi un film qui essaie de rendre un petit peu plus obscur l'objet rivière. C'est-à-dire que je me dis, si on ne sait plus très bien ce que c'est une rivière à la fin du film, alors le film est réussi. Je pense qu'il faut sortir un petit peu de... Il faut déconstruire un petit peu l'objet rivière, quoi. Donc, effectivement, la rivière, elle a des affluents. Ce qui est intéressant, c'est le réseau hydrographique. On le comprend bien. Donc, il faut sortir de cette sacralité du cours d'eau principal, la source, l'estuaire, l'exutoire, et voir que c'est tout un ensemble et que ce qui se passe à un endroit du bassin versant affecte l'ensemble du réseau hydrographique, etc. Donc, une grande interconnexion, une grande interdépendance, en fait. Mais... En même temps, ce réseau n'est lui-même que la partie superficielle d'un réseau plus complexe encore et plus ample, qui est donc les masses d'eau souterraines. Et ça, c'était un des enjeux pour moi du film, c'est comment rendre compte de quelque chose qui échappe au visible dans un film. Le défi, ce défi, il est reconduit, il se multiplie, c'est-à-dire qu'il y a le défi de représenter à la fois ce qui est dedans la rivière, les poissons, les insectes, les pollutions invisibles, mais aussi de faire comprendre l'extension de la rivière dans les nappes superficielles, alluviales, mais aussi les nappes plus profondes, et même l'extension, la continuité de la rivière dans l'atmosphère. Donc en fait, tout ça pour essayer de travailler quelque chose qui est assez simple de formuler, mais en fait difficile de vraiment intérioriser, savoir qu'il ne faut pas penser l'eau comme une ressource ou comme du stock, mais comme un flux. Et ça demande un certain travail, il faut s'acculturer, il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc il y a plusieurs façons de le dire et de nous amener à comprendre ou à expérimenter ça dans le film. Je pense que c'est dit au moins 3 fois. La connexion nappe-rivière, ce que ça fait de remplacer par exemple une prairie permanente par un champ de maïs drainé, quel impact ça a sur les débits. C'est à travers l'expérience des uns et des autres, une technicienne de rivière, un fonctionnaire, quelqu'un qui était garde-pêche et puis qui est devenu un des responsables du parc des Pyrénées, ou une scientifique, une hydrogéologue, que j'essaie de créer la possibilité chez le spectateur d'expérimenter ce genre de pensée. Et ça change tout politiquement. Si on commence à regarder la rivière et l'eau comme un flux et non plus comme une ressource et un stock, on n'a plus les mêmes politiques. On n'a pas le réflexe bassine, on n'a pas le réflexe retenue collinaire. On pense les choses autrement. On se redit que peut-être le meilleur endroit pour stocker l'eau, c'est les sols. Donc on repense les rotations, on repense à la question des haies, on repense à la question des espaces de mobilité des rivières, des zones d'expansion de crues. Ça a plein de conséquences, en fait, sur l'aménagement du territoire et sur l'agriculture. Et ça devrait en avoir aussi sur nos choix énergétiques, puisque dans le film, il y a plusieurs motifs. Il y a le saumon, il y a le maïs, mais il y a aussi le barrage. Et tout ce que l'on peut faire comme dégâts au nom de la transition.
Oui, c'est vrai que ça, on s'en rend bien compte dans le film, mais en même temps, je me dis, vous vous êtes certainement posé la question de comment est-ce qu'on le représente dans un film, parce que c'est vrai que ça peut sembler comme ça assez théorique. Alors, ça passe effectivement beaucoup par le témoignage, mais j'imagine que vous êtes aussi posé la question de comment simplement on filme la rivière, comment est-ce qu'on représente ça.
Effectivement, c'est dit d'ailleurs par Florence Abetz dans le film, comment se rendre compte de quelque chose qui n'est plus là. Elle parle de la biodiversité. Et c'est bien le problème qu'on a. Et c'était même le problème qu'on avait encore récemment par rapport au climat. On le savait, les gens ne le percevaient pas. Mais il se trouve que là, depuis... avec ces dernières années, la multiplication des incendies un peu partout dans le monde, ces méga-feux, les épisodes de sécheresse. Là, les gens commencent à se dire qu'il y a un truc qui se passe. Donc ça commence à devenir tangible. Mais l'effondrement de la biodiversité, c'est pas tangible pour le plus grand nombre, surtout que les gens vivent en ville essentiellement. Et même quand on vit à la campagne, etc. Donc il faut passer par un certain type de praticiens, d'observateurs de la rivière. Ça peut être des pêcheurs ou ça peut être à travers des loisirs ou à travers leur profession. Et d'ailleurs, ce qu'on voit dans le film, c'est que la plupart des personnages, des protagonistes du film, ont à la fois un rapport professionnel et un rapport non professionnel à la rivière. C'est-à-dire que c'est une passion dont ils ont fait leur travail. Ça, c'est très beau, je trouve. Donc, ce sont des gens qui connaissent. Très bien. Et en fait, moi, j'essaie pas de filmer quelque chose directement, quelque chose qui, justement, échappe à la vision. Mais pour essayer de le faire exister dans la conscience du spectateur, je me concentre sur le regard de ces acteurs-là. En fait, je regarde des gens qui regardent. Je suis attentif à l'attention. C'est comme ça. En fait, la représentation de la perte ou de la réalité de la biodiversité, enfin ce qu'il en est, enfin disons des dynamiques, etc., elle se produit dans la conscience du spectateur. elle n'est pas tellement à l'image.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
J'ai résisté à la tentation de produire des images de ça, parce qu'on peut toujours, en fait. Par exemple, j'aurais pu montrer des images scientifiques qui donnent à voir, enfin, qui offriraient une image de ces abdos dont je parlais tout à l'heure. Il y a des images qui sont produites, des représentations en 3D, des nappes phréatiques. Quand on voit ça, ça aide à comprendre. Et en même temps, est-ce que c'est pas trop simple de voir comme ça des masses colorées qu'on a colorées pour justement rendre intelligible, etc. Moi, je crois que dans mon travail, c'était, et par rapport à ce projet-là, c'était plus intéressant de ne pas produire d'images et de rester concentré sur les stratégies individuelles pour saisir ce qui échappe à la vision. Ça passe par exemple par des outils très simples comme la pêche ou très sophistiqués comme un spectromètre de masse dans un laboratoire CNRS à Pau. Ça passe aussi beaucoup par des inventaires. Il y a beaucoup d'inventaires dans le film. Il y a des inventaires de polluants, de microplastiques, il y a des inventaires de poissons à travers une séquence de pêche électrique. On met un courant dans l'eau pour faire diriger le poisson dans un filet, et puis après on les compte, on les mesure, on les pèse, et puis on les remet dans la rivière après. Il y a des inventaires de papillons. Il y a aussi des gens, on comprend, d'autres systèmes de mesure satellitaires ou alors des carottes qu'on opère sur les glaciers. Enfin, on voit qu'il y a tout un tas d'outillages pour tendre vers ce qui échappe immédiatement à la vision. Et certains sont très anciens, très archaïques.
Oui, en ça, je pense que votre film aussi ressemble à vos films précédents, parce qu'on retrouvait un peu de ça, et c'est un cinéma qui parle d'écologie, de films sur les enjeux écologiques, mais en même temps très différent de un peu les grands canons du genre, que ce sont les films soit très catastrophistes, qui mettent en avant des chiffres, des données, ou alors des images impressionnantes, ou à l'inverse, des films sur la nature, où on a la nature sublimée par des vues aériennes, ou ce genre de choses. C'est-à-dire, vous dressez un peu un chemin autre que ces courants-là.
Ouais, très clairement. Moi, depuis le début, je me dis voilà, le rôle là, du cinéma, c'est pas de donner des informations. Les informations, c'est le tout venant. Il y a qu'à se baisser pour ramasser des informations. Enfin, en l'occurrence, il y a qu'à aller sur un moteur de recherche et on a toutes les informations. Elles rentrent par une oreille, elles ressortent par l'autre. On oublie tout. Non, ce qu'il faut, c'est qu'un film soit un espace et une durée dans laquelle on peut faire des expériences. Des expériences de pensée et aussi des expériences du corps. Quoi. Le film, les gens me disent, il est sensuel. Ben c'est, oui, très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Certains sont plus précis que ça, parce que j'ai déjà pas mal montré, notamment dans les Pyrénées-Atlantiques, et notamment des vieilles personnes qui ne sont pas du tout habituées à voir ce genre de film, assez lent, contemplatif, me disent on avait l'impression d'être dans l'eau, quoi, c'était, voilà, de sentir les odeurs, les sensations. Ils connaissent très bien la rivière et ils s'étaient pas du tout habitués. Ils associaient pas l'expérience du cinéma documentaire à ce type d'expérience, précisément parce que l'expérience qu'ils en ont aujourd'hui, elle est essentiellement télévisuelle. Donc ce sont des objets où on peut pas vraiment avoir des sensations parce que c'est recouvert par des commentaires et de la musique, par un discours qui ne laisse pas de place, pas de liberté aux spectateurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les spectateurs puissent faire des libres associations, quoi. Construisent chacun des films différents. Alors c'est tramé, évidemment. Il y a des choses qui sont posées, mais néanmoins, il y a du jeu. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie dans tous mes films, et je pense que ce film va plus loin encore dans sa construction. C'est un film qui est pensé dès le début comme une épuisette trouée, quoi. C'est un film volontairement lacunaire, volontairement fragmentaire, et je pouvais me l'autoriser d'autant plus facilement que précisément j'étais sur un périmètre géographique limité, qu'il y avait quelque chose qui était posé, qui était l'unité d'un bassin versant. Et à partir de là, c'est plus facile pour moi de faire des sauts comme ça, qualitatifs, des changements disciplinaires, de passer d'un épi de maïs à l'arasement d'un barrage, parce que c'est renvoyé sans arrêt à une même réalité que le spectateur finit par accepter.
C'est vrai que vous parlez des sensations, de l'aspect sensoriel qu'on peut ressentir quand on voit votre film. Il y a aussi beaucoup le son, c'est-à-dire on entend cette rivière beaucoup, et ça c'est aussi un aspect, j'imagine, qui a dû être important au moment du tournage ou de la préparation, de la fabrication du film.
Ouais. Oui, oui, c'est jamais simple pour un ingénieur du son de travailler... à côté d'une rivière, parce que finalement c'est un son assez monotone, donc il peut fatiguer le spectateur. Quand on est dans in situ, on s'en rend pas compte parce qu'on est actif, etc. Mais c'est vrai que quand on écoute un son de rivière, c'est très continu. Alors le travail du monteur son et du mixeur consiste à modeler, mais de manière vraiment très légère, en fait, de recréer un peu de variation comme ça au mixage pour casser cette monotonie, et puis à partir des sons synchrones, des sons directs, de trouver des moyens avec des outils, de travailler sur des fréquences, des filtres, etc., pour distinguer les rivières les unes des autres, pour qu'il y ait quand même une variété dans cette là aussi grande ressemblance. Mais après, ce qui nourrit chaque séquence, ce qui donne une identité sonore à chaque séquence, c'est le reste, quoi. C'est la présence du végétal, le vent, pas vent, oiseau, pas oiseau, bruit de moteur ou pas. Les spectateurs à plusieurs reprises m'ont fait remarquer qu'on entendait très très peu les bruits humains, quoi, des moteurs et tout ça. Et ils m'ont demandé, est-ce que c'était une volonté de votre part? Je dis, mais moi, évidemment, on la travaille, une bande son, ça se travaille, ça se nettoie, ça se mixe, etc. Mais j'efface pas un son de moteur s'il y a un son de moteur. C'est pas dans mon éthique, c'est surtout pas dans mon esthétique. Mais il se trouve que comme les Gaves sont des rivières, bon, déjà les rivières en général, d'abord elles produisent elles-mêmes un son qui est très présent, donc qui couvre les autres sons plus lointains, mais on est dans des vallées, donc on est un peu protégé des bruits de la campagne, et encore plus quand il s'agit des Gaves, puisque ce sont des rivières qui sont très incisées. La première fois que j'ai découvert le Gave de Lauron, mais même encore maintenant, à chaque fois je suis saisi, quoi. C'est-à-dire qu'on va vers, mais on ne voit rien, on n'entend rien, on traverse un champ, et puis tout d'un coup, paf, on voit cette rivière qui est très puissante, 3 à 4 mètres en contrebas, et là le bruit arrive d'un coup, quoi.
Oui, effectivement, on le sent, on l'entend quand on voit le film. C'est aussi un film donc sur cette rivière avec différents protagonistes, comme vous l'avez expliqué, qui interviennent, qui donnent des informations, qui expliquent, mais aussi avec moins effectivement que dans votre premier film, moins de personnages avec lesquels vous semblez effectivement, j'imagine, en désaccord, parce qu'il y avait dans votre premier film, Le Temps des Grâces, il y avait certains, par exemple, des agriculteurs qui défendaient plutôt le point de vue de l'agriculture intensive, d'autres qui étaient, on avait un peu différents points de vue. Là, vous choisissez, comme vous le disiez tout à l'heure, de vous limiter peut-être à ceux qui vous intéressent ou à ce que vous avez envie de défendre comme idée, quelque part, en termes d'engagement politique.
En fait, je pense que le temps des grâces, tous les points de vue qui étaient dans le film, pour moi, étaient légitimes, pertinents, intelligents. Mais l'objet, c'était d'essayer de penser l'agriculture. Donc, le point de vue de tel éleveur qui dit voilà, moi je fais comme ça parce que on est dans une société qui se sentait contraint. En tout cas, s'il était dans le film, c'est que je trouvais qu'il posait très très bien un problème. Après, on le voit faire des choix qui lui appartiennent et qui ne sont pas ceux que font tous les protagonistes du film, mais il s'en explique, il est cohérent, il assume, il pose les vraies questions. Tout ça pour dire que voilà, il n'y a pas de personnage mis à l'index, etc. Je ne ferai jamais ça. Là, c'est autre chose, en fait. On parle d'une perte incommensurable dont le plus grand nombre n'a pas conscience. Les gens ne se rendent pas compte. À l'échelle de la société, on n'a pas la conscience de ce que représente cette perte. La perte de cette variété, cette abondance, cette beauté, cette munificence quoi, de la nature et du vivant. Et comme il est dit par Florence, on va le regretter. Ça nous manque déjà. Alors là, il ne s'agit plus de faire un débat contradictoire et de discuter de ceci ou de cela. En fait, moi, j'ai plus le temps, on n'a plus le temps. J'ai plus le temps d'écouter les hydroélectriciens nous dire « Ah, mais oui, mais il faut faire la transition, on a besoin d'énergie quand même pour allumer notre lave-vaisselle. » Non. On doit sauver les poissons, tout ce qu'on peut faire, on doit le faire. Et c'est au reste de s'adapter à ces objectifs-là, à ces enjeux-là. C'est dans ce sens-là que ça doit se passer. Donc c'est pour ça que le film, il perd plus son temps maintenant à écouter des discours qui sont les discours dont on nous rabat les oreilles. On vit là-dedans. En fait, le primat de l'économique, l'emploi. Et en plus, c'est un discours qui ne tient même pas debout parce qu'on voit très bien, si on prend l'exemple de l'agriculteur qui est présent dans le film, et donc qui a in extremis sauvé une vieille variété de maïs qui s'appelle le grand roux basque, et en basque ça s'appelle Artogoria, et à quel point la remise en culture et la sélection de ce maïs population a complètement changé sa pratique. Il a remis ses vaches à l'herbe, il n'a plus donné de maïs, donc il a arrêté les maïs hybrides. Il y a une dynamique locale qui s'est enclenchée, il y a une quinzaine de producteurs, ils se sont mis à transformer ce maïs. Donc en fait, c'est un modèle qui produit de l'emploi, qui génère de la richesse et du sens et du bien-être. Mais en fait, tout le monde le sait, ça. Je veux dire, moi, je le répète depuis mon premier film, mais c'était déjà des choses que l'on pouvait entendre dans les années 70 et même dans les années 50. Donc, c'est pas ce discours des élus, ce discours des administrations, ces arbitrages qui sont faits en faveur de l'économique et de l'emploi, etc. En fait, ils sont biaisés. C'est pour favoriser certains acteurs économiques, pas forcément tous les acteurs économiques. Donc moi, je trouve qu'on les entend suffisamment comme ça. Et ce que j'ai voulu donner à voir dans ce film, ce sont des gens qui payent de leur personne, qui mouillent la chemise, qui nous donnent à voir, qui connaissent très très bien, et qui sont dans ce balancement qui me touche profondément, parce que je trouve qu'on en est là, entre déploration et émerveillement. Voilà, ça coexiste et c'est la tension du film. J'ai voulu que l'émerveillement, parce que ce qu'on a peut-être oublié de dire, c'est que ce sont des rivières magnifiques.
Ouais. Aligre FM 93.1.
Oui, c'est vrai que c'est pas, comme on disait tout à l'heure, c'est pas un film sur uniquement la catastrophe, en fait. C'est aussi un film sur la beauté de ces rivières. Et c'est assez beau, d'ailleurs, tous ces personnages, comme vous le disiez, qui aiment cette rivière, qui l'aiment pas seulement parce que c'est leur métier, mais qui ont un rapport vraiment personnel, intime presque, à ces rivières. Vous les avez, je sais pas, choisi comment, rencontrer comment ?
Rencontrer, c'est le mot. Je les ai rencontrés il y a une douzaine d'années. Parce que j'accompagnais le Temps des Grâces, et puis je me suis retrouvé aussi dans le Béarn, et puis là j'ai rencontré des gens, je suis devenu ami avec quelqu'un qui a beaucoup pêché dans sa vie, beaucoup pêché à la mouche, un peu partout sur la planète d'ailleurs, et qui a connu le Gave enfant. Voilà, quelqu'un avec une sensibilité écologique et qui m'a un peu initié non seulement à la pêche, enfin, disons au monde de la pêche, pas à la pratique, je ne suis pas pêcheur, et à ces rivières. Donc cet ami, Jean-François, m'a fait gagner du temps, parce que au fil des années, en parlant du Gave et de telle ou telle personne, voilà, moi ça me restait en mémoire, j'y revenais, je me disais tiens mais reparle-moi de telle et telle, et puis quand un jour j'ai été prêt et décidé à faire ce film, alors le travail était finalement d'une manière inconsciente, insensible, déjà largement préparé, au moins sur le choix des protagonistes. Alors ce n'est pas par Jean-François que j'ai connu tous les protagonistes du film, mais certains. Patrick et Nuc et Philippe Garcia par exemple, mais j'ai rencontré Gilles Barret ou Manon à la faveur des repérages, et puis Florence Abetz, c'est différent encore puisque donc elle est à Paris, elle est enseignante chercheuse au CNRS, une spécialiste des nappes, et elle c'est, j'avais lu un article qu'elle avait publié dans Le Monde, une sorte de tribune, et je trouvais que le positionnement était impeccable, justement, à la fois très compréhensif sur les enjeux, les difficultés du monde agricole, et en même temps extrêmement clair et ferme sur le fait que c'était pas au climat de s'adapter à l'agriculture, mais l'inverse, que sinon on allait juste dans le mur. Enfin, elle le disait pas comme ça, mais c'était ça, quoi. Donc je me suis dit, ouais. Donc je l'ai appelée, et puis il se trouve que chaque année, elles font des voyages de terrain avec ses étudiants à Normale Sup, des étudiants en géosciences, en sciences de l'environnement.
On voit dans le film d'ailleurs.
Quand on les voit, il y a toute une séquence vers la fin du film avec cette jeunesse très savante. C'est un petit peu les histoires qu'on entend souvent maintenant, comme avec les diplômés de l'agro, quoi, les bifurqueurs. Enfin bon, là, en tout cas, on voit qu'ils se posent vraiment beaucoup, beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur intelligence, quoi, à qui, oui, ils vont la mettre au service de quoi, hein, de la recherche fondamentale, d'une grande entreprise, de l'administration. Comment on peut agir le plus efficacement possible? Et franchement, ils n'en savent rien. Et moi, en fait, on ne sait pas. Donc, on est quand même là, vraiment. Moi, je trouve que dans la société, on sent vraiment une tension, quoi, un point de bascule, parce que y a beaucoup, beaucoup de gens qui se rendent compte que maintenant, il faut agir. Et du côté des politiques publiques, on ne sent pas de vision. J'ai envie de dire, on ne sent même pas une volonté de comprendre ou de réellement écouter. J'ai envie de dire les gens qui savent.
Pour vous, cette prise de conscience, elle a commencé comment, enfin...
Pour moi ?
Ouais.
Elle a commencé, je sais pas, un peu comme tout le monde. C'est-à-dire que moi, je suis pas un grand connaisseur de la nature. Vraiment, je peux pas vous citer... beaucoup de noms d'oiseaux, mais néanmoins j'ai grandi à la campagne, et puis peu à peu je voyais bien quelque chose se détériorer, et comme tout le monde en fait, on s'en rend compte en allant ailleurs ou en revenant après une longue absence. C'est comme ça qu'on se rend compte que les choses ont changé. Quand on reste toujours au même endroit, c'est la disparition de la vie, c'est quelque chose qui se fait à bas bruit, mais en fait, même si ça va vite en fait, mais si on est toujours au même endroit. Alors voilà, par exemple, c'est toujours pareil, les témoignages des agriculteurs, ils prennent appui sur les oiseaux migrateurs. Voilà, parce que justement, ils s'en vont, ils reviennent. Donc là, on se dit, ah, il y en avait plus avant, l'année dernière. Et puis, quand j'étais enfant, il y avait beaucoup d'hirondelles, etc. Donc moi, j'ai quand même pu constater à mon échelle. J'ai grandi en Eure-et-Loir, quand j'étais enfant, il y avait des perdrix, il y avait des vanneaux, il y avait des lièvres. Moi, quand j'y retourne et que je pose la question, il n'y a presque plus rien dans la plaine. Hein. En fait, il n'y a plus rien dans la plaine. Donc, c'est pour ça que je suis aussi dans des rivières comme ça. C'est-à-dire que le Gave, ce sont des rivières qui déboulent des Pyrénées. Et ce qui se passe, c'est que la plaine, en fait, disons les cultures de la plaine, les cultures céréalières, et en l'occurrence le maïs, puisque c'est des régions où jusqu'à présent il y a beaucoup d'eau, mais en fait c'est aussi des régions où on va avoir des gros gros changements à l'horizon 2050, et c'est déjà commencé, d'ailleurs le film en témoigne. Donc là il y a des changements importants en termes hydriques à l'œuvre. Mais voilà, c'était des régions où il y a de la flotte, donc on y a fait beaucoup de maïs. Et la plaine gagne. C'est-à-dire qu'avant, elle était cantonnée... disons, les cultures céréalières qui étaient cantonnées à la plaine de la Dour montent maintenant jusqu'à Oloron, quoi, dans le piémont pyrénéen. Et avec l'uniformisation et la simplification de paysages, et j'ai envie de dire de paysages vivants qui va avec, quoi. Donc je m'en suis rendu compte par plein de biais différents et aussi notamment justement par les transformations paysagères et puis ensuite dans le travail des films, en allant à la rencontre des acteurs très différents. Et finalement, les premiers qui m'en ont parlé sérieusement, c'est des agriculteurs. Et c'est dans Le Temps des Grâces. Et ça s'entend, c'est très très clair. Et il y a un agriculteur, Benoît Joubert, il est devant une parcelle gigantesque et il explique que... on serait venu 2-3 ans auparavant, à la place de cette parcelle, il y avait 12 champs différents avec des chemins et donc des cultures différentes, et que c'était autant de lisières où les perdrix pouvaient nicher, etc. Et qu'aujourd'hui, c'est un véritable désert pour ces oiseaux. Et c'est redit. Donc en fait, la question de la biodiversité, parce que j'ai revu Le Temps des Grâces très récemment, parce qu'il y avait une rétrospective de tous mes films au Centre Pompidou, donc ça a été l'occasion de revoir... Le Temps des Grâces, et j'étais surpris, en fait, parce que je disais c'est un film sur le paysage, sur les transformations du paysage, mais en fait, la question de la biodiversité, elle est déjà là, en mineur, mais quand même, déjà pas mal posée. Mais il s'agit plutôt on parle plutôt de la vie du sol, et puis des oiseaux. La question de la biodiversité aquatique, elle arrive dans le film d'après, avec la ligne de partage des eaux, parce qu'on voit des techniciens qui font, qui essaient de faire des inventaires de moules perlières, les rivières du centre de Bretagne et du Limousin. En fait, toutes ces rivières qui coulent sur des substrats granitiques étaient bourrées de moules perlières. On les ramassait à la pelle, on les donnait à manger aux cochons. Mais c'est les mêmes récits qu'on a sur les gaves avec les anguilles, les civelles, les petites anguilles. Ils les ramassaient à la pelle. On n'a pas idée en fait de l'opulence, de l'abondance, de la profusion de vie qu'il y avait dans ces cours d'eau. C'est dingue. Les ouvriers agricoles ou les gens qui travaillaient au port de Bayonne, etc., exigeaient dans leur contrat de travail qu'on ne leur serve pas de saumon plus de 3 fois par semaine, tellement c'était un poisson commun. Et il y a eu des saumons et des gros saumons jusqu'à la fin des années 60, début des années 70. Donc quand on se balade dans le Béarn et qu'on va dans les auberges de pêcheurs, l'auberge du saumon, enfin voilà, il y en a plein. Toutes ces auberges qui sont des lieux qui sont encore fréquentés parce qu'il y en a encore un peu mais qui sont en sursis. Toutes ces auberges ont des murs recouverts de photos avec des prises de pêche, des trophées de pêche, et on voit des spécimens de saumon super gros, ceux de 20 kilos. Jusqu'à la fin des années 60. Ouais. Et après, ça commence à être le déclin.
C'est marrant, j'allais vous poser la question de pourquoi est-ce que cet engagement passe par le cinéma, mais j'ai l'impression qu'à travers votre réponse, en fait, on le ressent bien. Enfin, il y a quelque chose aussi de donner la parole, de donner à voir, et aussi quelque chose des émotions, en fait, Il y a beaucoup de mélancolie, de nostalgie aussi dans.
Ouais. Ouais, vous l'avez dit, moi j'ai pas grand chose à ajouter. Enfin, c'est-à-dire que le cinéma.
Il faut quand même dire que vous aviez été critique de cinéma avant de réaliser des films. Donc, vous avez déjà un rapport au cinéma.
Ah, oui, oui, ben, oui. Moi, le cinéma, ça fait partie de. Voilà, enfin, quand on est à la campagne, on n'a pas grand chose à faire et les films, et les, donc c'est avant Internet évidemment, donc finalement l'offre est rare, donc on rate rien. Donc moi j'ai regardé tous les films au ciné-club le vendredi soir, le dimanche soir, voilà, donc non, le cinéma, ça permet de faire. C'est un art extrêmement riche qui permet de faire beaucoup de choses et de travailler plein de choses dans le rapport à la connaissance, dans l'émotion. C'est vraiment aussi, on oublie, j'ai envie de dire, cette dimension absolument première du cinéma, que c'est un outil pour voir et donner à voir. Mais aussi, vraiment, pour voir. C'est-à-dire que le fait de mettre son œil dans l'œilleton, c'est pour voir mieux, autrement, plus. En tout cas, c'est déjà pour sélectionner, pour choisir ce qu'on va montrer. Donc il y a tout de suite le simple fait d'utiliser l'outil, l'objectif, c'est déjà un geste de connaissance, de production de connaissance. Donc en ce sens, c'est pour ça que le film redouble quelque chose, puisqu'il passe son temps à inventorier, à observer des outils pour voir, mais le cinéma en est un. Quand je dis voilà, c'est un inventaire d'inventaire ou c'est un film attentif à l'attention, c'est quand même, c'est vraiment ça.
Et la fiction, vous aviez un projet de film.
Oui, je l'ai toujours.
La fiction, vous avez toujours, ouais, mais.
Mais bon.
C'est une vraie question aussi de comment est-ce qu'on parle de ces sujets, comment est-ce qu'on s'engage à travers, par le prisme de la fiction.
Ouais.
C'est beaucoup tenté, je sais pas à quel point.
Ouais, c'est vrai. Ça, peut-être aussi si j'ai fait plusieurs films documentaires, c'est que j'avais besoin d'un peu plus de temps pour arriver à quelque chose qui me convienne ou qui me corresponde, pour commencer à trouver ma propre voix quoi dans cette écriture là. Et là je crois que j'y suis, donc mais je me suis pas pressé. Il y a eu comme ça une matrice que j'ai retravaillée à plusieurs reprises et donc qui effectivement mobilise beaucoup de choses qui sont dans mes films, mais en même temps, à travers des trajectoires individuelles, et ça permet aussi de raconter quelque chose que je peux pas faire avec ce genre de film-là. Et notamment, je travaille dans ce film beaucoup le rapport ville-campagne et l'idéalisation qu'on peut avoir de la campagne quand on est un urbain, et l'épreuve aussi de vérité que ça peut être de, à un moment, passer du temps à la campagne, non pas seulement comme ça, comme un citadin qui tient les choses à distance, mais d'y s'y retrouver par des jeux relationnels, tout d'un coup de comprendre que c'est pas l'Arcadie, pas du tout, et que c'est les mêmes problèmes qu'on retrouve dans les villes et en tout cas dans les banlieues et dans les campagnes, des problèmes effectivement de conflits d'intérêts, de collusion, de corruption. En fait, c'est toujours la même question du bien commun, quoi.
Oui. Vous avez un livre qui vous est consacré aux éditions Playlist Society qui sort à peu près en même temps, là qui est sorti, je crois, et qui est à peu près en même temps que la sortie du film, c'est à peu près concomitant. Je vais rappeler le titre, ça s'appelle Dominique Marchais, Le temps du regard. Ça vous fait quoi d'être l'objet, un objet d'étude maintenant ?
Alors en fait, il y a un très beau texte assez long de Stratis Vouyoukas en introduction, et ensuite le film c'est un entretien assez long avec Quentin Mével et Stratis Vouyoukas, qui connaissent très bien les films. Donc c'est film par film et ce sont des entretiens assez précis sur la fabrication des films, etc. Donc je pense que quand on a vu les films, ça peut être intéressant. Et puis peut-être c'est intéressant même si on les a pas vus parce que c'est... mais disons que c'est quand même quelque chose qui complète, qui accompagne les films. Voilà, c'est pas un ouvrage de monographie avec que des analyses. C'est une longue interview.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Un mot peut-être aussi sur l'affiche. Alors, on peut pas la voir à la radio, mais elle est très belle, cette affiche de la rivière, très originale. C'est un travail complètement pictural de peinture. On voit sur le vert, l'orange, des yeux, et puis ce mot la rivière qui traverse en diagonale l'affiche. C'est votre idée? Ça s'est fait comment?
Alors, c'est mon idée. Non, c'est l'idée. Enfin.
C'est à la main aussi.
Ouais, c'est magnifique. C'est une affiche qui a été réalisée par un artiste, un illustrateur. D'ailleurs, lui-même se définit d'abord comme un affichiste. Il s'appelle Benoît Bonnefrit. Benoît Bonne-Maison-Fit, mais il s'appelle aussi Benoît Bonnefrit. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est très, 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 très doué. Et j'avais vu une exposition il y a quelques années au 104 à Paris qui s'appelait Énergie, désespoir. Et c'est une exposition qui était fabriquée par une agence d'architecture, encore heureux, qui s'intéresse à l'architecture écologique, au réemploi, une agence super intéressante. Et ils ont bossé toutes les questions écologique, ils ont été au fond du truc, quoi. Vraiment, ils ont beaucoup lu et ils ont décidé d'en faire une exposition avec Benoît Bonnefrit. Donc, il y avait, je ne sais plus combien, peut-être une cinquantaine de dessins. C'était sur des tréteaux et il y avait une face énergie, une face désespoir. Et c'est à cette occasion que j'ai découvert le travail de Benoît. Ça m'a vachement marqué. Et puis, quand on a commencé avec Mathieu Berton, le distributeur du film, à parler de l'affiche, j'ai dit, tu te souviens cette expo? D'ailleurs, parce que c'est lui qui m'avait envoyé voir cette expo. J'ai dit, tu te souviens cette expo? Pourquoi on ne ferait pas... J'ai pas envie encore de sortir un photogramme. J'avais envie de quelque chose de différent. Et il m'a dit, ah, mais oui, tu as raison, Benoît, c'est une bonne idée. Je vais l'appeler. Et voilà, et il nous a sorti ça. Et quand j'ai vu ses premières propositions, qui sont en fait tout était là, ah, j'ai été vraiment bluffé, quoi. Je me suis dit, en effet, c'est un métier, quoi, que d'être affichiste. Et notamment ce geste avec ces deux yeux, ces deux gros yeux au milieu de l'affiche qui sont très ambivalents, qui parlent à la fois du film, c'est-à-dire le film porte un regard très 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 comme ça, très très scrutateur, très concentré sur la rivière, et en même temps c'est aussi la rivière qui nous regarde, quoi, avec une espèce d'attente, d'angoisse presque de et alors, quoi, qu'est-ce que vous allez faire de nous? elle m'évoque, enfin, moi j'adore cette affiche. Effectivement, il y a des gens qui disent un petit côté Miyazaki. On peut penser à ça aussi, à une dimension un peu d'estampe. On y voit deux gros saumons. Ça joue sur le rapport entre la transparence et la surface, l'opaque et le transparent, le fond et la surface. Ouais. Elle est top.
Je vous invite à regarder cette affiche, tapez sur internet La Rivière Dominique Marché pour la voir de vos yeux, mais surtout à aller voir La Rivière actuellement en salle. Je vous remercie beaucoup, Dominique Marché.
Merci à vous.
C'était Vive le Cinéma Perspective sur Aligre FM. La semaine prochaine, vous retrouvez une autre rubrique de Vive le Cinéma. Et quant à nous, on se retrouve dans un mois. Pretty green.
I'm gonna make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy scene. I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long I would teach my feet to fly. To help me, you know, he put me at ease, and he loved me so naughty, made me weak in the knees. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I'm so hard to handle, I'm selfish and I'm sad. Now I gone and lost the best baby that I ever had. Oh, I wish I had a river I could skate away on. I wish I had a river so long I would teach my feet to reindeer singing songs of joy and peace. I wish I had a river I could skate away on.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.